Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, pour nous aider à honorer notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, nous allons reprendre notre catéchisme pour y revoir les trois questions suivantes. Qu'est-ce que le sacrement de l'Eucharistie? Pourquoi Jésus-Christ a-t-il institué la Sainte Eucharistie? Comment faire une bonne communion? Et d'abord, qu'est-ce que le sacrement d'Eucharistie? Le catéchisme de Saint Pie X répond « L'Eucharistie est un sacrement qui, par l'admirable changement de toute la substance du pain au corps de Jésus-Christ et de celle du vin en son sang précieux, contient vraiment, réellement et substantiellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ notre Seigneur sous les espèces du pain et du vin, pour être notre nourriture spirituelle. L'Eucharistie contient vraiment, réellement et substantiellement notre Seigneur Jésus-Christ. Ces trois qualificatifs ont été choisis par le Concile de Trente pour éliminer trois erreurs des protestants que nous retrouvons aujourd'hui malheureusement même chez les catholiques. L'Eucharistie contient vraiment le corps de Jésus. Calvin prétendait que notre Seigneur n'est dans l'Eucharistie qu'en signe ou en figure. Et on entend aujourd'hui dire que l'hostie est un symbole de la présence ou de l'action de Jésus. Par exemple, un cantique moderne dit que c'est un pain rompu pour un monde nouveau. L'Eucharistie contient réellement le corps de Jésus. Pour tromper les fidèles, des protestants ont prétendu que le corps de Jésus-Christ est présent dans l'Eucharistie spirituellement, par la foi des fidèles, mais non pas réellement. Cette différence entre présence spirituelle et présence réelle explique une différence entre la messe traditionnelle et la messe nouvelle. Dans la messe traditionnelle, le prêtre, dès qu'il a prononcé les paroles de la consécration, fait une première génuflexion. Puis il élève l'hostie et il fait ensuite une deuxième génuflexion. Dans la nouvelle messe, on a supprimé la première génuflexion. Après la consécration, le prêtre élève l'hostie, puis fait une génuflexion, quand il l'a fait encore. Pour comprendre, il faut comprendre que cela est acceptable par les protestants, car à l'élévation, les fidèles font un acte de foi en Jésus-Christ, et alors il vient spirituellement dans l'hostie. Et alors, mais alors seulement, on peut faire une génuflexion. Enfin, l'Eucharistie contient substantiellement Jésus. Calvin disait que le corps de Jésus-Christ est présent dans l'Eucharistie par la vertu qui en émane dans notre âme, tout en enseignant qu'il n'était que dans les cieux quant à la substance. Non, selon la foi catholique, toute la substance du pain est changée en celle du corps de Jésus-Christ, toute la substance du vin en celle de son sang. C'est ce qu'on nomme le mystère de la transsubstantiation. Depuis Calvin, l'hérésie s'est affinée. Voici ce qu'on lit dans un document de réflexion théologique et spirituelle pour le Congrès Eucharistique International de Lourdes en 1981. Je cite « Une analyse de laboratoire manifesterait que, matériellement parlant, le pain eucharistié reste bien du pain. Il est donc faux de dire que le Christ a remplacé le pain et le vin. Son corps ressuscité ne peut pas prendre la place des éléments physiques ou chimiques. Pour ces éminents théologiens, il est faux de dire que le Christ a remplacé le pain et le vin. ce sont tout simplement des hérétiques. Il serait tout à fait inconvenant, voire sacrilège, de faire une analyse de laboratoire sur une hostie consacrée. Mais il est certain qu'on trouverait les propriétés chimiques du pain et du vin. La raison en est que les propriétés chimiques font partie des espèces du pain, comme la couleur, la forme, l'odeur, la saveur. Les espèces du pain demeurent, mais la substance du pain disparaît pour laisser la place à la substance du corps du Seigneur. Deuxième question. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il institué la très sainte Eucharistie? Jésus-Christ a institué la très sainte Eucharistie pour trois raisons principales, nous dit le catéchisme. Premièrement, pour qu'elle soit le sacrifice de la nouvelle loi. Deuxièmement, pour qu'elle soit la nourriture de notre âme. Troisièmement, pour qu'elle soit un mémorial perpétuel de sa passion et de sa mort, et un gage précieux de son amour envers nous et de la vie éternelle. Nous avons dit que l'Eucharistie est un sacrement qui contient Jésus-Christ pour être notre nourriture. Cependant, notre Seigneur n'a pas d'abord institué l'Eucharistie pour être une nourriture. Il l'a d'abord institué pour être le sacrifice de la nouvelle loi. L'Eucharistie, en effet, est un sacrifice avant d'être un sacrement. Notre Seigneur a pensé à son Père avant de penser à nous. Donc, il a pensé à offrir le sacrifice à son Père avant de penser à nous donner un aliment pour nos âmes. Par ailleurs, le sacrement est le fruit du sacrifice. Pour que nous ayons le sacrement, il faut qu'on célèbre la messe. Sans messe, pas de sacrifice, pas de sacrement. Notre Seigneur a donc institué l'Eucharistie pour trois raisons. Pour être un sacrifice, pour être la nourriture de nos âmes, et pour être un mémorial perpétuel de sa passion et de sa mort, et un gage de son amour envers nous et de la vie éternelle. Lorsque nous venons adorer notre Seigneur dans le Saint-Sacrement, nous avons devant nous le mémorial de sa passion, le gage de son amour, le Sacré-Cœur qui répand sur nous ses grâces. Enfin, un gage de la vie éternelle, c'est-à-dire que le ciel est en quelque sorte présent devant nous, derrière les voiles des apparences est caché Jésus, Dieu tout entier, toute la communion des saints, c'est-à-dire le ciel tout entier qui nous attire à lui. Enfin, posons notre troisième question. Comment faire une bonne communion? Le catéchisme demande d'abord, comment faut-il se tenir au moment de recevoir la sainte communion? Et il répond, au moment de recevoir la sainte communion, il faut être à genoux. Lever la tête médiocrement, tenir la tête médiocrement levée, les yeux modestement tournés vers la sainte hostie, la bouche suffisamment ouverte et la langue un peu avancée sur la lèvre inférieure. Peut-être n'avons-nous pas appris cela au catéchisme lorsqu'on a fait notre première communion. Aussi, je me permets de répéter. Tenir la tête médiocrement levée, les yeux modestement tournés vers la sainte hostie, la bouche suffisamment ouverte et la langue un peu avancée sur la lèvre inférieure. Cela dit, pour faire une bonne communion, le catéchisme dit qu'il y a trois choses nécessaires. Premièrement, être en état de grâce. Deuxièmement, être à jeun depuis minuit jusqu'au moment de la communion. Troisièmement, savoir ce qu'on va recevoir et s'approcher de la Sainte Communion avec dévotion. Il faut d'abord être en état de grâce. Cela veut dire qu'il faut se confesser avant de communier si l'on a conscience d'avoir commis un péché mortel depuis la dernière confession bien faite. Il n'est pas permis de communier en faisant simplement un acte de contrition. Le catéchisme dit Celui qui sait être en état de péché mortel doit, avant de communier, faire une bonne confession. Car l'acte de contrition parfaite, sans la confession, ne suffit pas à celui qui est en état de péché mortel pour communier comme il faut. Il faut ensuite être à jeun, c'est-à-dire n'avoir rien mangé, ni rien bu, avant la communion. Le catéchisme de Saint Pie X donne la règle en vigueur sous Saint Pie X, au début du XXe siècle. Cette règle a été celle de l'Église pendant 19 siècles. Le 19 mars 1957, le pape Pie XII a atténué la règle par le motu proprio Sacram Communionem. Voici ce qu'il dit. Les fidèles sont tenus à s'abstenir pendant 3 heures d'aliments solides et de boissons alcoolisées, pendant 1 heure de boissons non alcoolisées, avant la Sainte Communion. L'eau ne rompt pas le jeûne. Et il ajoute, « Mais nous exhortons vivement les prêtres et les fidèles qui sont en mesure de le faire, d'observer avant la messe ou la Sainte Communion l'antique et vénérable forme du jeûne eucharistique, c'est-à-dire le jeûne depuis minuit. » Et il continue, « Et que tous ceux qui bénéficieront de ces facultés veuillent compenser l'avantage reçu par l'exemple rayonnant de leur vie chrétienne et principalement par des œuvres de pénitence et de charité. » Le pape Paul VI a prétendu abréger encore cette durée à 1 heure. Mais l'on ne peut accepter cette règle qui va contre le bon sens et le respect dû à la Sainte Eucharistie. Il faut s'en tenir à la règle de Pie XII. La troisième condition pour faire une bonne communion est de communier avec dévotion. Que veut dire communier avec dévotion? Le catéchisme répond. Communier avec dévotion, c'est s'approcher de la Sainte Communion avec humilité et modestie, dans sa personne comme dans ses habits, et faire la préparation avant la Sainte Communion et l'action de grâce après. Autrement dit, pour communier avec dévotion, il y a 3 choses à faire. S'approcher de la Sainte Communion avec humilité et modestie, faire la préparation avant la Sainte Communion et l'action de grâce après. La question de la modestie vaut pour les hommes comme pour les femmes. Les hommes pêchent en général par négligence. Ils viennent parfois en tenue de sport ou dans des tenues plus ou moins débraillées. Quant aux dames, vous connaissez les règles que demande l'Église en ce domaine. Contentons-nous ce matin de citer un texte du cardinal Rouleau, un cardinal dominicain qui fut archevêque de Québec. Il écrivait en 1930 que si l'on demande « En quoi consiste un habit modeste et décent pour une chrétienne ?» on comprendra que c'est celui qui couvre la poitrine et les bras d'étoffe non transparente, qui descend au moins à mi-jambe, c'est-à-dire à mi-mollet, et dont la coupe, d'une ampleur convenable, protège la pudeur en dissimulant les lignes du corps. Pour communier avec dévotion, il faut encore faire la préparation avant la Sainte Communion et l'action de grâce après. Disons simplement ce que dit le catéchisme à ce sujet. La préparation avant la communion consiste à s'arrêter quelques instants à considérer qui nous allons recevoir et qui nous sommes, à faire des actes de foi, d'espérance, de charité, de contrition, d'adoration, d'humilité et de désir de recevoir Jésus-Christ. L'action de grâce après la communion consiste à rester dans le recueillement, honorant la présence du Seigneur en nous et renouvelant les actes de foi, d'espérance, de charité, d'adoration, de remerciement, d'offrande et de demande, demandant surtout les grâces qui nous sont le plus nécessaires à nous et à ceux pour lesquels nous sommes obligés de prier. N'oublions pas que quand nous avons communié, notre Seigneur est réellement, substantiellement présent en nous pendant environ un quart d'heure. Profitons de cette journée consacrée à honorer le Saint-Sacrement pour prendre de bonnes résolutions concernant notre dévotion au Saint-Sacrement et notre façon de communier, afin d'en tirer tous les fruits que notre Seigneur Jésus-Christ veut que nous en tirions. Demandons cela à Notre-Dame, elle qui a donné son corps à notre Seigneur, elle qui a communié avec tant de dévotion pendant des années des mains de Saint Jean, qu'elle nous apprenne à communier fructueusement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.